Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'église mère de Carigny, dédiée à Marie très sainte assumée. Ce guide a été réalisé par l'association Jonathan Livingstone, ODV, avec le patronage de la municipalité de Carigny, grâce au fonds du plan national de relance et de résilience du ministère de la Culture, inclus dans la mission 1, numérisation, innovation, compétitivité, culture et tourisme, et la composante 3, tourisme et culture 4.0. Avant de franchir le seuil de ce lieu sacré, arrêtez-vous un instant et laissez-vous envelopper par l'histoire. Vous êtes devant un édifice qui plonge ses racines à la fin du XVe siècle, à une époque de grande transformation pour la Sicile et pour l'Europe entière. C'est en 1492 que commença la construction de cette église, la même année où Christophe Colomb découvrait l'Amérique et où les rois catholiques achevèrent la Reconquista espagnole. Une année de changements épiques qui marqua aussi le début de cette extraordinaire aventure architecturale et spirituelle. Cette magnifique église fut voulue par la noble famille Lagrua Talamanca, seigneur de Carigny. Il ne s'agissait pas simplement de construire un lieu de culte, mais de créer un symbole de leur pouvoir, de leur dévotion et de leur lien indissoluble avec la communauté. La construction ne fut pas rapide. Il fallut des décennies de travail incessant, de conception minutieuse, de recherche des meilleurs matériaux et des artisans les plus habiles. En 1523, 30 ans après le début des travaux, l'église obtint enfin la reconnaissance de paroisse, consolidant son rôle central non seulement dans la vie religieuse, mais aussi dans la vie sociale et économique du bourg. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, l'église connut une phase d'enrichissement continu. Ce furent les décennies où prirent forme les premiers cycles décoratifs, lorsque des artistes comme Vincenzo Blandino introduisirent ce style baroque en noir et blanc qui conféra à la structure une première élégance extraordinaire. Mais le temps et l'humidité, ennemis implacables de l'art, commencèrent bientôt à menacer ces premières œuvres, rendant nécessaires des interventions de restauration qui se succéderaient au cours des siècles suivants. Le XVIIIe siècle marqua une véritable renaissance pour l'église mère. Sous la direction éclairée de l'archiprêtre Carlo Ballarini, qui dirigea la paroisse de 1775 à 1798, un projet de transformation fut lancé qui ferait de cette église le chef-d'œuvre que vous pouvez admirer aujourd'hui. Ballarini n'agit pas seul. Il réussit à impliquer le prince de Carigny, les autorités ecclésiastiques et toute la population pour soutenir l'immense dépense de restauration. Les meilleurs artistes de l'époque furent appelés Giuseppe Testa, élève du grand, Vito Danna, Gregorio Lombardo, maître des stucs, et de nombreux autres artisans d'un talent extraordinaire. Ces hommes transformèrent l'église en un théâtre de beauté, introduisant des éléments néoclassiques qui s'harmonisèrent parfaitement avec les structures préexistantes, créant ce dialogue entre différentes époques qui rend encore aujourd'hui ce lieu unique. Le XIXe siècle apporta de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. C'est à cette période que des artistes comme Girolamo Bagnasco laissèrent leur marque avec des sculptures en bois d'une rare beauté. Mais le véritable protagoniste de la restauration du XIXe siècle fut Monseigneur Tommaso Manino, sous la direction duquel, entre 1927 et 1931, l'artiste Onofrio Tomaselli, avec son fils Armando et d'autres peintres locaux, entreprit un vaste projet de restauration qui rendit aux fresques de Testa leur éclat originel. Maintenant que vous connaissez l'histoire de ce lieu, levez les yeux et laissez-vous conquérir par la magnificence de la façade qui se dresse devant vous. C'est un chef-d'œuvre du baroque sicilien tardif. Une œuvre qui sait allier l'imposante architecture à la finesse décorative. Observez la structure générale, trois grands portails s'ouvrent comme des invitations solennelles à entrer dans le royaume du sacré. Chacun de ces portails est surmonté de tympans semi-circulaires, élégamment décorés de motifs qui rappellent ça à la tradition classique réinterprétée selon le goût baroque. Les deux clochers qui flanquent la façade sont asymétriques. Ce n'est pas un manque de conception, mais un choix conscient. L'un de ces clochers a été adapté en tour de l'horloge. Un détail qui témoigne que l'église n'était pas seulement un lieu de culte, mais le cœur battant de la vie communautaire, le point de référence temporel pour toute la ville. La tour de l'horloge, communément appelée « Il Tocco », a toujours été le lieu de rendez-vous pour les personnes qui se donnaient rendez-vous à cet endroit à une heure précise correspondant au son de l'heure. Maintenant, déplacez-vous légèrement vers la droite et dirigez-vous vers la charmante loggia à trois arcades qui s'ouvre sur le côté droit de l'église. Cet élément, en plus de créer une harmonie dans l'ensemble architectural, offrait abri et ombre les jours les plus chauds. Mais le véritable trésor de la façade latérale sont les panneaux polychromes qui ornent le mur juste après la loggia. Ces panneaux vifs, composés de majolique du XVIIIe siècle, véritables joyaux de l'art céramique sicilien, sont signés par Ignazio Milone et datés de 1715. Ils représentent Saint Guy, le jeune martyr qui est le patron de la ville, Sainte Rosalie, la sainte palermitaine tant aimée dans toute la Sicile, ici vénérée comme protectrice contre les pestes et les calamités. L'Assomption, Marie qui monte au ciel, thème central de la dédicace de cette église. Et enfin le très saint crucifix, représentation de la passion et de la rédemption du Christ. Les couleurs sont vibrantes même après trois siècles. Le bleu cobalt du ciel, le rouge vermillon des manteaux, l'or des auréoles, le vert des fonds paysagers. Ces couleurs ne se sont pas estompées avec le temps, grâce à la technique de fabrication de la majolique, un art qui en Sicile a atteint des niveaux d'excellence absolue. Chaque panneau a d'abord été modelé, puis peint avec des pigments minéraux, enfin cuit à des températures très élevées, qui ont fixé les couleurs pour toujours. Le résultat est ce que vous voyez. Ces panneaux n'ont pas toujours été ici. À l'origine, ils recouvraient entièrement la flèche du clocher, créant un effet chromatique qui devait être spectaculaire. Mais maintenant, chers visiteurs, je vous invite à franchir le seuil d'entrée de ce lieu sacré par le portail d'entrée principal. Mettez l'audioguide en pause et appuyez à nouveau sur lecture dès que vous franchirez la porte d'entrée. Bienvenue à l'église Mère de Carini. La première sensation qui frappe est celle de se trouver dans un espace qui semble s'étendre à l'infini. La structure même de l'église suit le modèle de la croix latine, symbole de la chrétienté, mais aussi forme architecturale qui garantit un équilibre parfait entre fonctionnalité liturgique et beauté esthétique. Devant vous s'ouvre la perspective qui mène vers le maître-autel. Mais maintenant, dirigez-vous vers la première chapelle qui s'ouvre sur la nef latérale gauche. Je vous invite à lever les yeux vers la voûte de cette nef. Ce que vous voyez au-dessus de vous est un véritable ciel peint, un chef-d'œuvre d'art sacré qui raconte des épisodes du Nouveau Testament liés au ministère public du Christ. La voûte en berceau présente cinq panneaux fresqués, chacun encadré de frises en stuc blanc or avec des motifs floraux octogonaux d'une exquise facture. Ces fresques ne sont pas disposées au hasard, mais suivent une séquence narrative précise qui avance longitudinalement de la croisée vers la contrefaçade, accompagnant le fidèle dans un chemin de foi et de contemplation. La première fresque de la voûte de la nef gauche, que vous pouvez admirer en levant les yeux, est un chef-d'œuvre d'art sacré qui raconte l'un des épisodes les plus touchants du ministère de Jésus, la guérison du paralytique. Au centre de la scène, le Christ se dresse dans toute sa majesté divine, vêtu d'une tunique blanche qui symbolise la pureté et d'un manteau rouge qui rappelle le sang de la rédemption. Sa figure domine la scène et le geste de sa main droite, levé en signe de commandement et de bénédiction, semble encore résonner des paroles évangéliques. « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Maintenant, tournez votre regard vers la première chapelle qui s'ouvre à gauche. C'est la chapelle de la Velatio Crucis, un espace qui abrite l'une des traditions liturgiques les plus anciennes et les plus suggestives de l'Église catholique. L'espace est creusé dans l'épaisseur du mur latéral et s'ouvre sur la nef par une simple travée rectangulaire. Au centre de la chapelle, un modeste banc en bois est disposé pour déposer des bougies ou des fleurs pendant la Semaine Sainte. Cette absence de table d'autel souligne la fonction première de la chapelle. Ce n'est pas un lieu de célébration eucharistique, mais d'exposition et de contemplation. Mais le véritable trésor de cette chapelle est le grand voile qui domine le mur du fond. C'est un drap de toile de chanvre de dimensions considérables, environ 3 mètres sur 1 mètre et demi, qui représente l'une des plus anciennes traditions liturgiques du christianisme, la Velatio Crucis. Ce voile, peint à la détrempe brune monochrome, est probablement l'œuvre d'ateliers palermitains, réalisé entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Au centre se dresse la croix avec le Christ crucifié, représenté avec cette dramaturgie propre à l'art de la Passion. Mais ce n'est pas seulement une représentation de la crucifixion, c'est l'anticipation de la Pietà, comme l'indique la présence des figures au pied de la croix. Au pied de la croix, la Vierge des douleurs, Marie qui vit la douleur suprême de la mère qui voit mourir son fils. Sa figure, enveloppée dans un manteau sombre, exprime toute la douleur de l'humanité face au mystère de la souffrance innocente. À côté d'elle, la Madeleine est représentée affaissée par la douleur, dans une attitude qui exprime le désespoir de celle qui a perdu tout ce qui donnait un sens à son existence. Saint Jean l'évangéliste, le disciple bien-aimé, complète ce groupe de figures qui représente l'humanité fidèle qui n'abandonne pas le Christ même dans l'heure la plus sombre. Sa présence rappelle les paroles de Jésus depuis la croix « Voici ta mère », paroles qui confient Marie à l'Église et l'Église à Marie. Mais quelle était la fonction originelle de ce voile ? Pendant le temps du carême, et en particulier du vendredi de la Passion jusqu'à la veillée pascale, ce voile était abaissé pour couvrir les images sacrées de l'Église. C'était une ancienne tradition qui avait pour but de guider les fidèles dans la méditation sur la Passion du Christ, en les privant temporairement de la consolation des images sacrées pour concentrer leur attention sur le mystère de la souffrance rédemptrice. Cette chapelle conserve l'usage originel de cette tradition, témoignant d'une pratique liturgique aujourd'hui peu répandue, mais d'une grande valeur spirituelle. En continuant vers la deuxième chapelle, levez à nouveau les yeux vers la voûte de la nef gauche. La deuxième fresque raconte l'un des épisodes les plus significatifs de l'Évangile, l'appel des premiers disciples. Au centre de la composition, le Christ se dresse avec sa majesté divine et l'invitation aimante adressée à ceux qui sont appelés à le suivre. Sa main tendue n'ordonne pas, mais invite. Son regard ne juge pas, mais accueille. Les protagonistes de cette scène sont deux frères pêcheurs, probablement Pierre et André, comme le raconte l'Évangile de Matthieu. L'un des deux frères est penché pour ramasser les filets, encore plongé dans le travail quotidien, mais son corps se penche déjà vers le Christ, comme s'il sentait l'appel divin. L'autre frère a levé les yeux vers Jésus et dans son expression, vous pouvez lire l'assentiment de celui qui reconnaît dans la voix qu'il appelle la voix de Dieu. L'environnement qui sert de toile de fond à la scène est celui de la côte du lac de Galilée, peinte avec cette maîtrise paysagère qui caractérise toute la décoration de cette église. En poursuivant le long de la nef gauche, vous vous trouvez maintenant devant la deuxième chapelle dédiée à l'Ecce Homo. Elle a une architecture sobre mais élégante. Il s'agit d'un environnement rectangulaire couvert d'une voûte en berceau enduite, volontairement dépourvue de décorations picturales murales. Ce choix n'est pas fortuit. La sobriété architecturale concentre toute l'attention sur les trésors artistiques et spirituels que la chapelle abrite. L'autel qui domine la chapelle est un chef-d'œuvre de l'art néoclassique, une œuvre qui sait allier la pureté des lignes à la richesse des matériaux. Observez le devant en verre antique, une variété de marbre aux veines précieuses, encadrée par le marbre rouge de Castellamare. Au centre, un cœur doré attire immédiatement l'attention. C'est le symbole de l'Ecce Homo, le cœur du Christ. Sur les côtés de l'autel, deux fines colonnes ioniques en marbre rouge ajoutent une touche d'élégance classique, reprise dans les angles de l'élévation. Mais le véritable trésor de cette chapelle se trouve au centre, un petit temple en marbre qui est lui-même une œuvre d'art. Quatre colonnes blanches au chapiteau doré encadrent et protègent le cœur de la chapelle. Un buste en bois de l'Ecce Homo. Sur les murs latéraux de la chapelle, deux grandes toiles des 18e et 19e siècles complètent le programme iconographique de cet espace sacré. Sur le mur de gauche, une toile de l'école palermitaine tardo-baroque représente un ange en vol qui tend la palme du martyr et une couronne à un jeune soldat, Saint Victorin. Sur le mur de droite, une autre toile représente Saint Blaise, l'évêque avec la mitre et la crosse qui bénit. À ses côtés, un frère franciscain et une femme voilée présentent leurs offrandes. Le tableau sommital, dédié à la déposition au sépulcre, clôt idéalement le cycle iconographique de la chapelle conduisant le fidèle de la dérision de l'Ecce Homo à l'anticipation de la résurrection. En allant encore plus loin et en regardant vers la voûte, la troisième fresque que nous rencontrons représente l'une des scènes les plus tendres et significatives de l'Évangile. « Laissez les petits-enfants venir à moi ». La scène se déroule sur le soubassement d'un escalier, un détail architectural qui n'est pas fortuit, mais profondément symbolique. L'escalier représente l'ascension spirituelle, mais ici le Christ descend vers les petits, s'abaisse à leur niveau, démontrant que l'amour divin va à la rencontre de leur fragilité et simplicité humaine. Au centre de la scène, Jésus est représenté avec la main droite levée en signe de bénédiction, la gauche caressant tendrement la tête d'un enfant. Les protagonistes de cette scène sont trois enfants, amenés par une jeune mère et une femme âgée. Remarquez comment l'artiste a su représenter les différents âges de la vie humaine, l'innocence des enfants, la sollicitude maternelle de la jeune femme, la sagesse de l'âge mûr chez la femme âgée. C'est toute l'humanité qui se présente au Christ, mais à travers ses membres les plus purs et les plus simples. La chapelle suivante, le long de la nef gauche, est dédiée à Saint-Pierre, le pêcheur de Galilée, que le Christ choisit comme pierre fondamentale de son église. La statue est l'une des œuvres sculpturales les plus significatives de cette église, sculptée en bois et attribuée au célèbre artiste Girolamo Bagnasco au XIXe siècle. Saint-Pierre est représenté dans sa dignité apostolique, mais sans perdre cette humanité qui le rend si proche du cœur des fidèles. Dans sa main droite, il tient la clé symbolique, l'attribut, qui l'identifie immédiatement et qui rappelle les paroles du Christ « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Observez le soin extraordinaire avec lequel les détails du drapé ont été sculptés. Les plis de la robe suivent les mouvements du corps avec un naturalisme qui fait paraître le tissu réel. Les traits du visage sont sculptés avec une précision qui révèle la maîtrise de l'artiste. La barbe, rendue avec de petites boucles, au centre de la composition se déroule. La rencontre entre la cécité humaine et la lumière divine. Le mendiant aveugle est représenté dans une position qui exprime toute sa condition de besoin. Il tend son bâton vers le Christ dans un geste qui est à la fois une demande d'aide et un acte de foi. L'aveugle est représenté avec un corps volontairement plus brut. Ses jambes minces soulignent sa condition de faiblesse physique. La chromie bleu cendré de sa robe n'est pas fortuite. Ses couleurs rappellent la tristesse, la pauvreté. C'est l'homme réduit à l'essentiel, dépouillé de tout, sauf de la foi. Le Christ de l'autre côté de la scène est représenté avec la majesté compatissante qui caractérise toutes les fresques de cette voûte. Il se penche vers l'aveugle, se fait proche de sa souffrance. La technique picturale utilisée pour cette fresque révèle la main d'un maître dans l'art du clair-obscur. Observez comment la lumière semble irradier de la figure du Christ, illuminant progressivement toute la scène. En poursuivant notre chemin le long de la nef gauche, nous arrivons à la quatrième chapelle dédiée à saint André, le frère de Pierre, le premier appelé parmi les apôtres, celui qui le premier reconnut en Jésus le Messie. La statue que nous avons devant nous est l'une des œuvres sculpturales les plus anciennes et les plus précieuses de cette église. Un chef-d'œuvre anonyme du XVIe siècle qui renferme des siècles de dévotion et d'art. Cette statue, bien qu'œuvre d'un artiste anonyme, porte en elle toute la force expressive et la profondeur spirituelle de la Renaissance italienne, une époque où l'art sacré atteignit des sommets de sublime beauté. Saint André est représenté avec la croix diagonale, l'attribut qui l'identifie immédiatement et qui rappelle son martyre. Le visage de Saint André exprime une intensité émotionnelle extraordinaire. L'artiste a réussi à capturer non seulement les traits physiques du saint, mais son état d'esprit, cette sérénité qui naît de la certitude de la foi. L'artiste a sculpté chaque pli avec une maîtrise en haut qui fait paraître le tissu réel, animé par un vent léger. La croix que saint André tient entre ses mains est représentée comme un symbole de gloire. La croix diagonale, également appelée « croix de saint André », devient entre ses mains un étendard de victoire, un signe de triomphe. L'autel qui accueille la statue est un parfait exemple d'art de la Renaissance. Au-dessus de l'autel, une niche élégamment décorée de stucs dorés abrite une fresque représentant des scènes du martyr du saint. En poursuivant votre visite, levez les yeux une dernière fois vers la voûte de la nef gauche. La cinquième et dernière fresque de cette séquence représente l'une des images les plus chères à la tradition chrétienne, le bon pasteur. Cette fresque conclut magnifiquement le cycle narratif de la voûte. Le Christ est représenté enveloppé d'un manteau pourpre, couleur qui rappelle sa royauté divine mais aussi sa passion rédemptrice. Le petit troupeau que le Christ surveille est rendu par de rapides touches de clair-obscur qui démontrent la maîtrise de l'artiste à capturer l'essence des choses avec quelques signes habiles. Les moutons ne sont pas décrits dans les moindres détails, mais leur présence est évoquée par une synthèse picturale qui les rend vivants et réels. Mais maintenant, je vous invite à poser votre regard sur la dernière chapelle de la nef gauche, celle des confessions, qui abrite l'un des trésors artistiques les plus précieux de toute l'église mère, l'extraordinaire toile de l'Adoration des bergers d'Alessandro Allori, élève du Bronzino, datée de 1578. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance florentine qui a trouvé ici, en terre de Sicile, sa demeure définitive, continuant d'enchanter les fidèles et les visiteurs plus de 4 siècles après sa création. Observez attentivement la composition. Allori a créé un équilibre parfait entre tous les éléments de la scène, où chaque figure, chaque détail, chaque jeu de lumière contribue à créer un sentiment d'émerveillement et de sacralité qui vous enveloppera complètement. La disposition des personnages n'est pas fortuite, mais suit une géométrie sacrée qui guide le regard vers le centre spirituel de la composition. Les bergers sont représentés avec des expressions de sincère dévotion. Allori a réussi à capturer non seulement l'aspect extérieur de ces humbles personnages, mais leur état d'esprit, l'étonnement de ceux qui assistent à un miracle. Les vêtements des bergers sont peints avec une attention extraordinaire aux détails et à la texture qui démontre la maîtrise technique de l'artiste. Au centre de la composition, l'enfant Jésus irradie une lumière divine qui illumine toute la scène, soulignant la signification spirituelle de la nativité. La figure de la Madone, représentée par Allori, possède la grâce et la douceur qui caractérisent la meilleure tradition picturale florentine. Saint Joseph, souvent relégué au second plan dans les représentations de la Nativité, assume ici un rôle de premier plan. L'arrière-plan de la toile est enrichi de paysages nuancés qui ajoutent profondeur et réalisme à la composition. Allori, utilise la technique du sfumato léonardesque pour créer des atmosphères qui semblent se dissoudre dans l'infini. Le contraste entre la simplicité des bergers et la majesté du miracle représenté est l'un des éléments les plus touchants de cette toile. La technique picturale utilisée par Allori révèle sa formation dans l'atelier du Bronzino et sa connaissance de la grande tradition florentine. Le dessin est parfait, les couleurs sont distribuées avec sagesse, la lumière est utilisée comme élément narratif et symbolique. C'est un exemple parfait de cette synthèse entre beauté et spiritualité qui caractérise l'art de la Renaissance à son apogée. Mais cette chapelle ne contient pas seulement la toile d'Allori. On y conserve également une litière du Très-Saint-Sacrement, utilisée pour le viatique aux malades, un objet liturgique qui témoigne du soin pastoral de la communauté pour ses membres les plus fragiles. Maintenant, dirigez-vous vers le transept latéral gauche où s'ouvre la chapelle du Sacré-Cœur, autrefois dédiée à Saint-Sébastien. L'espace est une pièce profonde de plan rectangulaire, surélevée de 3 marches en marbre rouge. Levez les yeux et admirez l'ordre mural qui caractérise cet espace. Des paires de colonnes cannelées aux chapiteaux composites soutiennent un entablement néoclassique continu d'une rare élégance. La frise, qui court le long de l'entablement, finement dorée, alterne rosettes, palmettes et guirlandes en ruban qui se répètent dans tout le transept gauche, créant une unité décorative qui témoigne du soin avec lequel chaque détail de cet espace a été conçu. La voûte, en berceau à lunettes, présente des panneaux bordés d'or et remplis de motifs végétaux en relief. Le panneau central de la voûte représente le cœur de Jésus flamboyant, entouré de têtes d'anges, une image d'une intensité spirituelle extraordinaire. Dans les voiles latérales de la voûte, vous pouvez admirer de petits poutis avec des lys, des ancres et des croix. Une allusion aux vertus théologales qui préparent à la dévotion au Sacré-Cœur. Le lys symbolise la pureté, l'ancre représente l'espérance, la croix rappelle la foi. Au centre de la chapelle se dresse l'autel du XIXe siècle, réalisé en marbre polychrome qui crée un effet d'une extraordinaire richesse chromatique. Le tabernacle, à thème piéto, qui encadre une petite coupole verte marbrée avec une croix apicale, est un petit chef-d'œuvre d'art sacré, une architecture miniature qui rappelle les grands temples de l'Antiquité. La statue en bois du Sacré-Cœur, de la fin du XIXe siècle, domine la chapelle par sa présence majestueuse. Le Christ est représenté en pied, avec une tunique crème et un manteau pourpre, tandis qu'il désigne son cœur rayonnant et couronné d'épines. Sur les côtés de l'autel, 2 toiles du XVIIIe siècle créent un diptyque pascal d'une beauté et d'une signification théologique extraordinaire. À gauche, le Nolim Tangere représente le Christ ressuscité qui se manifeste à Marie-Madeleine. À droite, la montée au calvaire présente Jésus hissé par les soldats vers le lieu du supplice. Cette œuvre, caractérisée par des contrastes clair-obscur dramatiques et une mise en scène théâtrale de goût baroque sicilien tardif, exalte la dignité du Christ qui accepte librement la passion par amour de l'humanité. La voûte du bras transversal présente une fresque centrale d'une grande signification spirituelle, l'ange qui réconforte le prophète Élie dans le désert. Cet épisode biblique est une allusion à la force de l'Eucharistie, à la nourriture spirituelle que Dieu offre à ceux qui marchent dans le désert de la vie. Élie, nourri par l'ange, trouve la force de continuer son chemin vers la montagne de Dieu. De cette chapelle s'ouvrent 2 accès d'une grande importance, à gauche vers l'oratoire du Très-Saint-Sacrement, à droite vers la sacristie. Ces espaces témoignent de la richesse artistique et spirituelle de cette église, qui ne se limite pas aux ambiances principales mais s'étend à chaque recoin de l'édifice. Maintenant, portez votre attention sur l'un des trésors les plus précieux et les plus raffinés de toute l'église mère, le tabernacle, en marbre, sculpté par Giacomo Gagini, vers 1543. Ce petit chef-d'œuvre de la Renaissance, fixé au pilier de l'arc triomphal gauche, représente l'une des œuvres les plus raffinées de toute l'église et témoigne de la présence en Sicile de cette extraordinaire famille de sculpteurs qui a laissé des traces indélébiles de l'art de la Renaissance sur l'île. Il s'agit d'un petit ciboire mural creusé dans une console en marbre qui semble défier les lois de la gravité dans son élégante suspension. Cette console n'est pas un simple support, mais un élément décoratif d'une grande finesse, réalisé en volute avec un écu héraldique et des guirlandes de roses en relief qui témoignent de la prestigieuse commande de cette œuvre. Le corps central est constitué d'une niche arquée, un petit temple qui rappelle les architectures classiques mais réinterprétées selon la sensibilité de la Renaissance. Cette niche est flanquée de cariatides angéliques qui soutiennent l'arc avec grâce et solennité. Dans la lunette de la niche, on admire un bas-relief d'une finesse extraordinaire qui représente Jésus ressuscitant du sépulcre. Le plafond à caissons hémisphériques incisé dans la cuvette simule une petite voûte à caissons de la Renaissance, un détail qui transforme ce petit espace en un véritable temple miniature. Chaque élément architectural est reproduit à échelle réduite, mais avec le même soin et la même précision qui caractériserait un grand édifice. Les proportions sont parfaites. L'équilibre entre les différents éléments est magistral, l'utilisation du marbre de Carrare témoigne de la recherche de la plus haute qualité artistique. Immédiatement après le tabernacle, la chapelle de l'Immaculée située dans la nef gauche à côté du presbytère. Cet espace sacré représente l'un des lieux les plus intimes et recueillis de toute l'église. Un sanctuaire dédié à la Vierge Marie dans son Immaculée Conception, où art, foi et dévotion se fondent dans une harmonie d'une rare beauté. Au centre de la chapelle se dresse majestueusement la statue de l'Immaculée, une œuvre d'art attribuée au célèbre Girolamo Bagnasco, le même artiste qui a réalisé la statue de Saint-Pierre. La statue incarne l'iconographie classique de la Vierge. Une tunique ivoire enveloppe sa figure avec cette pureté qui est symbole de l'innocence originelle, tandis qu'un manteau bleu se drape avec grâce, enveloppant le corps en spirale dans un mouvement qui semble animé par le souffle de l'Esprit-Saint. La Vierge repose sur un croissant de lune et un globe, symbole cosmique qui rappelle sa royauté universelle. Sous son pied, le serpent écrasé représente la victoire sur le péché originel. C'est l'image de la nouvelle Ève qui répare la désobéissance de la première femme. Aux côtés de la Vierge, un poteau ailé soutient un bouquet de lys, emblème de pureté et d'innocence. Sur la tête de la Vierge, une couronne métallique et une auréole avec les 12 étoiles de l'Apocalypse proclament sa royauté céleste. L'autel qui accueille la statue présente une table en marbre incrustée blanc, noir et rosé. Une harmonie chromatique qui en exalte la noblesse. Ces couleurs ne sont pas fortuites. Le blanc symbolise la pureté de l'Immaculée, le noir rappelle l'humilité de Marie, le rosé évoque sa maternité divine et humaine. L'agencement architectural de la chapelle se révèle dans une profonde niche voûtée, en berceau, culminant en un arc triomphal qui en marque l'entrée. Cet arc, encadré de pilastres lisses et d'une élégante corniche moulurée, souligne la noble simplicité de cet espace, où chaque élément est pensé pour ne pas distraire de la contemplation de la Vierge. Les voûtes et les murs, recouverts d'un enduit blanc laiteux, sont animés par un foisonnement de reliefs en stuc doré. Des motifs de feuilles d'acanthe, des rosettes et des rinceaux se déploient avec grâce, suivant le mouvement sinueux de l'arc et dessinant des frises en léger relief sur les murs latéraux, créant un délicat arabesque de lumière et d'ombre. Au sommet de la conque absidale, juste au-dessus de la niche, trône un soleil rayonnant, symbole de l'illumination divine. Le monogramme, inscrit dans un cartouche, proclame l'Immaculée comme « aurore du salut pour l'humanité ». À gauche de l'autel se dresse le monument funéraire de Père Francesco Vecchi, une petite édicule en marbre de Brèche rosée de Trapani, ornée d'incrustations de marbre noir gravées de rinceaux. Le soubassement du monument, soutenu par des consoles, et les pilastres, avec volutes latérales, culminent en un fronton brisé, conférant à la structure une élégance sobre et composée. Dans un cadre carré blanc, un tondeau pictural renferme le buste du défunt, un visage barbu, un habit clérical sombre et une pose sévère qui souligne l'autorité spirituelle. La plaque de marbre blanc porte une inscription latine qui commémore « De hominum Franciscum Vecchi », archiprêtre et zélé promoteur de la discipline ecclésiastique et de la charité envers les pauvres, décédé le 30 août 1653. Le monument fut érigé par son neveu Andrea Vecchi. Maintenant, levez les yeux vers la coupole et le tambour qui la soutient, le cœur lumineux de cette église, le point où la terre rencontre le ciel. Le cœur battant de cette merveille architecturale se révèle dans le tambour, un intérieur octogonal qui représente un chef-d'œuvre d'ingénierie et de beauté. 8 grandes fenêtres rectangulaires sont encastrées avec maestria dans des ébrasements à forts ressauts, créant un jeu de lumières et d'ombres qui capte la lumière extérieure et la diffuse dans l'environnement avec une douceur qui semble surnaturelle. Sous la corniche, une guirlande en stuc de petites fleurs alternant avec des grappes. Maintenant, levez les yeux pour observer la calotte qui culmine en un petit oculus circulaire. Cette lanterne aveugle sert de prise de lumière zénitale, illuminant d'en haut un cœur céleste, de la fin du XVIIIe siècle peint dans des tons pastels. Des anges musiciens avec harpe, luth, cors et tympan flottent parmi les chérubins et les nuages rosés dans une danse éternelle de louanges et d'adoration. Sur les longs côtés de la calotte, des figures allégoriques des vertus théologales se manifestent dans toute leur beauté éthérée. la foi avec la croix, l'espérance avec l'encre, la charité avec les enfants, la gloire avec la couronne d'étoiles. Au sommet de la calotte, dans une auréole de lumière dorée qui semble irradier de l'éternité même, Dieu le Père bénissant domine la scène dans une perspective magistrale. Cette figure n'est pas seulement picturale, mais théophanique. C'est l'apparition du divin qui se manifeste à travers l'art. À l'imposte orienté vers la nef principale, dans un riche tore végétal aux feuilles d'acanthe dorées, apparaît le monogramme marial AM entrelacé, sceau supplémentaire de la dédicace de toute l'Église à la Madone. Ce monogramme n'est pas seulement décoratif, mais programmatique. Toute l'Église est sous la protection de Marie, tout converge vers elle. À droite du maître-autel, Saint Marc se présente avec un visage mature et des cheveux bouclés, vêtu de vert aigue marine et d'un manteau pourpre. Il lit un rouleau déplié sur ses genoux, tandis que derrière lui apparaît la tête d'un lion rugissant. Le lion renvoie à la voix qui crie dans le désert et est le symbole de la royauté du Christ qui vient établir le royaume de Dieu. À gauche du maître-autel, Saint Luc apparaît comme un évangéliste barbu, avec une tunique bleu papier de sucre et un manteau corail. Dans sa main, il tient une plume d'oie et une feuille. Derrière lui apparaît le museau d'un taureau avec de petites cornes pointant vers l'avant. Le taureau rappelle le sacrifice sacerdotal qui ouvre l'évangile de Luc avec l'offrande de Zacharie dans le temple. À droite de la nef centrale, Saint Jean se manifeste comme une figure jeune mais barbue, enveloppée dans un large manteau rosé. Il tient un calame et un livre ouvert. À côté de lui, vole un aigle qui pose une patte sur le bord du volume. L'aigle fait allusion à la vision théologique en hauteur du prologue joannique. Au commencement était le Verbe. Chers visiteurs, je vous invite maintenant à rejoindre le presbytère de l'église mère, le cœur battant de cette église extraordinaire, le lieu où depuis des siècles est célébré le mystère de l'Eucharistie. Cet espace est surélevé de 3 marches, un détail qui n'est pas seulement fonctionnel mais profondément symbolique, soulignant la sacralité et l'importance de ce lieu. Le presbytère se termine par une profonde abside rectangulaire que nous appelons le cœur, un espace qui fut redessiné à la fin du XVIIIe siècle selon les canons d'un néoclassicisme austère à la romaine. Observez les murs, scandés par de fausses pilastres cannelées embellies de chapiteaux corinthiens dorés qui soutiennent un haut entablement à denticules. L'entablement, à son tour, soutient un fronton brisé, dans le fastigium duquel s'ouvre une grande fenêtre axiale. La lumière qui filtre de cette fenêtre n'est pas fortuite, mais étudiée. Elle illumine l'autel et met en valeur la riche gloire de Dieu en stuc, une œuvre extraordinaire modelée en 1795 par le stuccateur palermitain Gregorio Lombardo. Admirez cette gloire de Dieu, des figures d'anges et de chérubins dansent dans une explosion de lumière divine, tandis que des rayons dorés semblent irradier de l'infini pour bénir ce lieu sacré. Maintenant, je vous invite à observer le maître-autel réalisé entre 1798 et 1801. C'est un magnifique complexe de marbre mélangé qui témoigne de la richesse artistique et spirituelle de cette communauté. Des colonnes corinthiennes de jaspe et une table d'autel en cipolin en exaltent la préciosité et la sacralité. Le tabernacle, conçu comme un petit temple, abrite un délicat crucifix en ivoire placé sur une croix en écaille de tortue datant du début du XIXe siècle. À l'origine, ce cœur était ceint de stalles en bois et d'une chair sculptée en noyer, œuvre de Minucilla. Malheureusement perdu aujourd'hui. De cette magnificence, il ne reste que la chair adossée au pilier nord, témoin silencieux d'un art passé qui nous parle encore de la richesse liturgique et artistique de cette église au cours des siècles passés. Mais le véritable trésor de ce presbytère sont les toiles qui ornent les murs du chœur, créant un parcours iconographique d'une beauté extraordinaire qui narre des épisodes marquants de la vie de la Vierge Marie. Au centre du maître-autel domine le grand retable de l'Assomption de la Vierge d'environ 6 mètres sur 4, œuvre de Giuseppe Testa, datée de 1795, comme le révèle la signature découverte lors de la restauration de 2024. Cette découverte a rendu l'œuvre à son auteur légitime après 230 ans d'attribution erronée à Antonino Mano. Dans le tableau, la Madone monte au ciel enveloppée d'une gloire d'ange, tandis qu'en bas, les apôtres observe le sépulcre vide avec des expressions d'émerveillement et d'étonnement. La touche lâche et les chromis vert bleu sont typiques de Testa, élève du grand Vito d'Anna, et témoignent de la continuité de la grande école picturale sicilienne. Sur le mur de droite, vous pouvez admirer la Nativité de la Vierge, réalisée par Antonino Mano avec la collaboration des frères Vincenzo et Francesco entre 1796 et 1798. La scène présente des matrones au premier plan, tandis que Sainte-Anne est allongée dans son lit en arrière-plan. Remarquez les draperies somptueuses et la lumière chaude qui enveloppent la composition, lui conférant une atmosphère intime et accueillante qui célèbre la joie de la naissance de Marie. Toujours sur le mur de droite, à la hauteur de l'arc d'accès, la visitation de Marie à Élisabeth, également une œuvre d'Antonino Mano faisant partie du même cycle marial. L'artiste se concentre sur les mouvements de l'âme, représentant Élisabeth enceinte et Marie s'inclinant en signe de salut. Une scénographie architecturale de fond enrichit la composition, lui donnant profondeur et réalisme. Sur le mur de gauche, le mariage de la Vierge, œuvre d'Antonino Mano, datée de 1796 à 98, présente une composition pyramidale avec au centre le prêtre qui célèbre le mariage entre Marie et Joseph. En haut, la colombe du Saint-Esprit répand une lumière dorée, symbole de bénédiction divine qui sanctifie ce sacrement et prépare Marie à sa mission de mère de Dieu. Toujours sur le mur de gauche, à la hauteur de l'arc d'accès, la vision de deux saints moines attribués à l'atelier sicilien de la fin du XVIIIe siècle, avec attribution à Angeleri. Deux religieux désignent la Madone en gloire, tandis qu'en bas des anges musiciens vibrants animent la scène par leur présence, créant un pont entre la terre et le ciel, entre la contemplation monastique et la gloire céleste. Maintenant, levez les yeux vers la voûte du presbytère, où au-dessus de l'entablement se trouvent deux panneaux fresqués, également de testa, aujourd'hui visibles en contrefaçade et sur l'arc triomphal. Le premier, au-dessus du retable de l'autel, représente le triomphe de la croix, symbole de la rédemption, est portée au ciel par des poutis et une figure féminine allégorique. La deuxième fresque, vers la nef, représente la gloire de Marie parmi les chœurs angéliques. La Vierge assumée, comme pour continuer le retable en dessous, est entourée de chœurs angéliques dans une explosion de lumière et de mouvement qui anticipe la béatitude éternelle. La voûte plate qui relie les deux fresques est divisée par des caissons octogonaux peints à la grotesque, avec des rosettes dorées, sur fond ivoire, restaurées en 1927 par Onofrio Tomaselli, qui leur a rendu leur splendeur originelle. Chers visiteurs, je vous invite maintenant à poursuivre votre visite dans la nef centrale, fruit du génie de Giuseppe Testa. C'est à lui que l'on doit la grandeur de ses œuvres, imprégnées d'une grâce et d'une force expressive inégalable. Un mérite non moins significatif doit être reconnu à Onofrio Tomaselli qui, lors de son séjour ici à Carini, a su, lors de la restauration des fresques de Testa, restituer cette teinte originale qui nous permet aujourd'hui de les admirer dans leur force expressive authentique et vibrante. Maintenant, levez les yeux, cinq grandes fresques ornent la voûte de la nef centrale se déployant comme un ciel peint qui raconte les gestes des grandes héroïnes bibliques. 10 fresques, 5 de chaque côté, se déroulent dans les lunettes de la voûte elle-même, invitant le regard à se perdre dans les détails et les histoires de sainteté qu'elle narre. Dans les 5 fresques de la voûte centrale sont narrés autant de faits bibliques qui mettent en scène des figures féminines d'une force et d'une signification spirituelle extraordinaire, Esther, Judith, Jaël, Abigaël et Rachel. Dans les lunettes, entre les colonnes, sont fresquées du côté droit vers la porte d'entrée principale, en procédant longitudinalement de la contrefaçade vers le maître-autel, les représentations se succèdent de comme suit. Dans la première voile, nous rencontrons Saint Jérôme. La deuxième voile est dédiée à l'Immaculée Conception. La troisième voile représente Saint Joseph, époux de Marie et père putatif de Jésus. Dans la quatrième voile sont représentés Sainte Anne et la petite Marie. Dans la dernière voile est représenté Saint Jean-Baptiste. De l'autre côté de la nef, à gauche du presbytère, sont représentés en séquence. Dans la première voile, Saint Paul l'apôtre. Dans la deuxième voile, Saint Guy martyr. Dans la troisième voile, Sainte Catherine d'Alexandrie. Dans la quatrième voile, Saint Sébastien. Dans la cinquième voile, Saint François d'Assise. La première fresque de la nef centrale, placée au centre de la travée au-dessus de la chaire, représente Judith avec la tête d'Holoferne. Au centre de cette scène, d'une intensité dramatique, la jeune héroïne, Judith, est assise dans une robe rosée qui symbolise à la fois sa féminité et son courage. Elle tient encore l'épée et pose sa main sur la tête d'Holoferne dans un geste qui n'exprime pas la violence, mais la détermination. Pas la vengeance, mais la justice. La servante, agenouillée à côté de Judith, expose la tête coupée du général assyrien Holoferne dans un geste qui est à la fois triomphe et avertissement. Ce geste ne célèbre pas la mort, mais la victoire de la justice. En arrière-plan de la scène, on aperçoit les piques du camp ennemi, peintes avec la maîtrise qui caractérise tout le cycle de Testa. Adossée à la première colonne de la nef gauche, La chair, autrefois partie intégrante de la grande machine en bois du cœur, se déploie dans une somptueuse architecture en noyer local assombri au tampon, ornée d'applications en bois de tilleul doré à la mission. Le parapet, de plan rectangulaire aux angles doucement arrondis, alterne des miroirs encadrés de fines lattes qui accentuent son élégance néoclassique sobre. Sur celui-ci court une frise continue de denticules et de feuilles de laurier, soutenues par des consoles finement moulurées. Le baldaquin, gardien d'un ciel en bois, abrite au centre un soleil rayonnant d'où pend la colombe candide du Saint-Esprit, gage d'assistance divine à la prédication. La décoration en relief, très riche, entrelace des draperies croisées, des glands et des festons dorés qui, courant dans les ébrasements et dans l'arc du parapet, font écho aux guirlandes des antépendiums baroques de la cathédrale. Sur la face avant, un haut relief doré d'environ 1,10 m capte le regard. Le Christ y figure en tunique courte et manteau, le bras droit levé en signe de bénédiction. Le visage, serein, se penche doucement vers le petit auditoire qui l'entoure. À ses pieds, les 12 apôtres, visages minuscules, drapés doux et rassemblés en éventail semi-circulaire, guident l'œil vers la figure maîtresse, composant une harmonie qui élève l'âme et remplit de dévotion celui qui la contemple. En poursuivant votre voyage à travers les chefs-d'œuvre de Giuseppe Testa, levez à nouveau les yeux vers la voûte de la nef centrale pour contempler le deuxième panneau qui raconte l'offrande d'Abigaïl à David, un épisode biblique d'une profondeur humaine et spirituelle extraordinaire tiré du premier livre de Samuel. Au premier plan, Abigaïl est de montrer agenouillée en acte de supplication. Son geste de tendre à David un panier rempli de provisions est un signe de sa sagesse et de sa capacité à transformer une situation de conflit en un moment de paix et de réconciliation. Derrière elle, vous pouvez apercevoir d'autres servantes et l'âne chargée, détails qui soulignent l'abondance du don et la préparation minutieuse de cette rencontre. David est représenté vêtu en chef de guerre avec cuirasse, casque à plumes et manteau, symbole de son autorité militaire et de son futur destin royal. Son geste d'accueil envers Abigaïl révèle la grandeur d'âme du futur roi d'Israël. Sa capacité à reconnaître la sagesse même lorsqu'elle vient d'une femme, à une époque où les voix féminines étaient souvent ignorées. Derrière David, les guerriers avec lance et étendard rappellent l'expédition punitive qui était sur le point de s'abattre sur la maison de Nabal, le mari d'Abigaïl. En poursuivant la contemplation des chefs-d'œuvre de Giuseppe Testa, dirigez maintenant votre attention vers le troisième panneau de la voûte centrale, où se déploie l'une des scènes les plus dramatiques et touchantes de l'Ancien Testament, Esther se présentant au roi Perse Assuérus pour intercéder en faveur de son peuple. Dans la scène, la jeune reine s'évanouit sur les marches du trône, soutenue par ses fidèles servantes, tandis que le puissant souverain se penche vers elle avec un geste de compassion et de clémence. C'est l'iconographie classique de l'évanouissement d'Esther, un moment qui renferme tout le drame humain et spirituel de cette femme extraordinaire. Observez Esther, pâle et affaissée, symbole de la fragilité humaine face au pouvoir terrestre, mais aussi de la force intérieure qui naît de la foi. Le roi Assuérus, ému de compassion, tend son sceptre vers elle dans un geste qui transforme la justice en miséricorde. Les servantes qui soutiennent Esther témoignent de la fidélité de l'amitié et de la solidarité féminine. Elles n'abandonnent pas leur reine au moment du danger, mais la soutiennent par leur présence. L'environnement du palais, avec ses colonnes majestueuses et ses draperies scénographiques, souligne la solennité du moment. Le grand drap vert qui domine la scène n'est pas seulement un élément décoratif mais symbolique. Il représente l'espoir qui ne meurt jamais. Encore après, admirez le quatrième panneau de la voûte centrale où se déploie l'une des scènes les plus douces et significatives de l'Ancien Testament. Rebecca au puits. Cet épisode, tiré du livre de la Genèse, place au centre de la composition le puits en maçonnerie avec seaux et cordes. Rebecca est assise à droite de la scène, vêtue de clair avec un manteau bleuté qui rappelle la pureté de son âme. Le geste éloquent de sa main qui indique l'eau est un symbole de sa disponibilité envers l'étranger. Le serviteur d'Abraham, Eliezer, est représenté au premier plan à gauche avec l'habillement typique du voyageur et le turban manteau qui souligne son origine étrangère. Son geste de recevoir l'offrande exprime la reconnaissance. En cette jeune femme généreuse, il reconnaît l'épouse destinée par Dieu à Isaac, la femme qui complétera la promesse faite à Abraham. Testa a su rendre avec maestria la douceur de cette rencontre. En concluant votre contemplation des grandes fresques centrales de la voûte, tournez maintenant votre regard vers le cinquième et dernier panneau, placé au-dessus du portail principal, où Giuseppe Testa a peint l'une des scènes les plus dramatiques et controversées de l'Ancien Testament. Jaël et Sisera. Cette fresque, qui conclut le cycle des grandes héroïnes bibliques, présente une histoire d'astuce, de courage et de justice divine. La scène s'ouvre sur la figure de Jaël, la jeune femme qui tient un marteau en l'air, tandis que dans sa main basse, elle tient le piquet fraîchement enfoncé. Ses attributs, typiques de l'iconographie de Jaël, l'identifient immédiatement comme l'épouse de Héber le Kénite, la femme qui, par un geste audacieux et décisif, changea le cours de l'histoire de son peuple. Au pied de Jaël gît Sisera, le général cananéen semi-nu et endormi, portant encore les marques de son armure de guerrier. Le contraste entre sa puissance militaire, symbolisée par l'armure, et sa vulnérabilité dans le sommeil crée une tension dramatique que Testa a su rendre avec une maîtrise picturale. Chers visiteurs, je vous invite maintenant à poursuivre votre visite en vous dirigeant vers la nef latérale droite. Cette nef, couverte d'une voûte en berceau continu scandée par cinq grandes arcades transversales, est un véritable livre de la vie publique du Christ, peint avec maîtrise et dévotion. Ces peintures, signées en bas à droite par Tomaselli, sont également datables du premier quart du XXe siècle. La première fresque de la voûte, située en correspondance avec la chapelle du baptistère, représente les tentations du Christ dans le désert. Le Christ est représenté seul, entouré par la désolation du paysage désertique, avec deux démons vêtus d'anges qui lui, Paul les anges, qui observent la scène d'en haut, peint avec des tonalités éthérées et délicates, souligne l'intervention divine de l'Esprit-Saint, caractérisée par la présence de la colombe, en ce moment fondamental de l'histoire du salut. Au centre de la chapelle se dressent les fonts baptismaux réalisés en marbre rouge de Vérone. La forme octogonale de la couverture des fonds n'est pas fortuite. L'octogone, dans la symbolique chrétienne, représente la résurrection, la vie nouvelle, le huitième jour de la création qui commence avec le baptême. La chapelle du baptistère vous rappelle que la vie chrétienne est un chemin qui commence par l'eau et l'esprit, qui continue avec l'Eucharistie et la confirmation, qui se nourrit de la parole de Dieu et des sacrements, qui trouve son accomplissement dans la vision béatifique. Emportez avec vous le souvenir de ce lieu saint. Chaque fois que vous verrez un baptême, rappelez-vous que vous assistez au plus grand miracle, la naissance d'un enfant de Dieu. Chaque fois que vous entendrez l'eau couler, rappelez-vous que le Christ vous a lavé dans son sang et vous a rendu pur comme la neige. Cette chapelle est le point de départ de votre pèlerinage dans l'église mère de Carigny, tout comme le baptême est le point de départ de votre pèlerinage vers l'éternité. C'est le lieu où tout commence, où la grâce de Dieu touche pour la première fois votre vie, où vous devenez partie de la grande famille des croyants. En poursuivant, le deuxième panneau de la voûte présente la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade. Sur le rivage, les pêcheurs renversent le filet débordant de poissons et d'anguilles, tandis que Jésus, à gauche, absorbé, indique le prodige. Chers visiteurs, en poursuivant notre chemin le long de la nef latérale droite, je vous invite maintenant à vous arrêter dans la deuxième travée où s'ouvre la chapelle de Saint-Sébastien, un lieu qui, malgré son apparente simplicité, renferme des siècles de dévotion et d'art. L'agencement architectural se présente comme une niche de plan rectangulaire, gracieusement encastrée entre deux pilastres cannelés, culminant dans une voûte en berceau surbaissé avec des lunettes latérales. Les cadres, les listelles et les moulures architecturales suivent fidèlement le schéma de la fin du XVIIIe siècle de l'ensemble du dôme. Un fond blanc, des filets ochre-or et de petites applications en stuc, comme des pendentifs de feuilles et des rosettes, qui ajoutent une touche d'élégance délicate. Au centre de cette chapelle, bien qu'aujourd'hui suspendue sans l'autel original, nous admirons un grand retable, une huile sur toile datant de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, œuvre de l'école palermitaine. En haut, la Vierge au sceptre domine la scène, entourée de nombreux saints dominicains et carmélites, témoignage de la richesse de la sainteté chrétienne et de l'intercession qui unit ciel et terre. Parmi eux, vous pouvez reconnaître un évêque avec une mitre, peut-être Saint Albert, et deux saintes contemplatives qui représentent la vie religieuse féminine. La composition pyramidale et les couleurs estompées suggèrent la main d'un épigone de Francesco Sozzi, un artiste qui a su insuffler une profonde spiritualité à cette œuvre. À côté du retable se dresse la statue en bois de Saint Sébastien, haute d'environ 120 cm et datant du XVIIIe siècle, une œuvre d'une forte intensité expressive. Le martyr est lié à un tronc, le corps souple, enveloppé d'un périzonium brun doré qui souligne à la fois sa vulnérabilité humaine et sa dignité spirituelle. Les gouttes de sang palpitantes sur la poitrine et les jambes exaltent le sacrifice du saint. Sa tête est tournée en extase vers le haut, un pathos baroque typique qui exprime sa profonde foi même au moment du martyr. Le groupe de Lourdes, Avec la Vierge Immaculée et Sainte Bernadette agenouillées, réalisées en résine et haut de 120 cm, témoignent de la continuité de la dévotion mariale et de l'importance des apparitions dans la spiritualité moderne. Ces œuvres sont ici pour les pratiques de piété populaire, offrant un lieu de prière personnel pour l'intercession des saints les plus proches de la sensibilité contemporaine. En avançant, la troisième fresque de la voûte raconte le mystère de la résurrection de Lazare. À l'entrée de la grotte, Marthe et Marie assistent à la sortie de leur ami enveloppé de linceul. Jésus, le bras tendu et la robe blanc-rosée, domine la scène tandis que la foule recule stupéfaite devant le miracle de la vie qui triomphe de la mort. Au-dessus de l'architrave de la porte méridionale qui mène à la loggia extérieure, enchâssée dans un cadre de stuc du XVIIIe siècle blanc-or avec des volutes et une coquille de couronnement, se trouve une toile d'une beauté extraordinaire qui fait office de véritable dessus de porte théologique. Au sommet de la composition, la Vierge Immaculée est assise sur de candides nuages, vêtue d'une tunique ivoire et d'un manteau bleu-vert. Les mains croisées sur la poitrine rappellent le dogme de l'Immaculée Conception, tandis que le regard tourné vers le haut exprime une profonde dévotion et contemplation. Derrière la Vierge, Saint Joseph est reconnaissable par le lys qu'un petit ange lui tend, symbole de sa pureté et de son rôle de gardien de la Sainte Famille. Au centre d'une auréole dorée, la colombe du Saint-Esprit symbolise la présence divine qui illumine et sanctifie toute la composition. Un cœur de tête de chérubin forme un nuage lumineux sous les pièces de Marie, reliant idéalement le ciel et la terre. À gauche, Saint Paul est représenté comme un jeune homme avec une épée nue et un évangile ouvert, symbole de son martyre et de sa prédication. À droite, Saint Blaise est reconnaissable à sa mitre, à sa chape brodée et à sa crosse. Le saint indique la Vierge de sa main droite, invitant les fidèles qui franchissent le seuil à la dévotion. Devant la porte latérale, adossée aux colonnes, sont placés deux authentiques joyaux de l'art de la Renaissance sicilienne, les bénitiers en marbre qui témoignent de la présence en Sicile de la célèbre famille Gagini. Le premier bénitier, placé à gauche, est un chef-d'œuvre de 1496, le plus ancien artefact conservé dans cette église. La date gravée le situe au cœur de la première Renaissance sicilienne, alors que le célèbre Domenico Gagini et son atelier renommé opéraient déjà à Palerme. Observez le soubassement, un bloc quadrangulaire finement travaillé avec des feuilles, un motif végétal qui révèle immédiatement la main de l'école Gagini. Sur le bord inférieur, les viroles lisses servent de base octogonale à la colonne, remplaçant les piédestaux gothiques par un lexique plus classique, signe de ce renouveau artistique qui transformait l'art sicilien. Le fût est une colonne élancée, tournée en forme de tronc de palmier, avec le marbre délicatement gravé en arêtes de fougères et des grappes de baies qui montent de vers le haut. Cette forme n'est pas fortuite, elle renvoie au lignum vitae, l'arbre de vie. Le bassin présente une bande lisse avec des volutes gravées, mais le véritable enchantement réside dans les têtes d'anges qui émergent comme des consoles entre de profondes nervures en forme de pétales. Sur les côtés, les blasons avec le château crénelé ressortent, témoignant de la commande de la famille La Grua Talamanca. Le deuxième bénitier, placé en face, a été réalisé par Antonino Gagini en 1543. Cette œuvre représente l'évolution stylistique de l'atelier Gagini vers la pleine maturité de la Renaissance. Le soubassement se présente comme un bloc en forme de tronc de pyramide, avec quatre puissants pieds léonins qui émergent en ronde bosse des angles. Chaque côté présente un écu héraldique encadré de volutes en ruban. Deux portent encore clairement le château à deux tours crénelées de la Grua Talamanca, témoignage de la commande féodale. Le fût est une balustre effilée composée de deux éléments. Un vase central à double anse avec une tête de puto ailée en très léger haut relief et en base une frise à volutes en C opposée. Le petit puteau fait office de genius aquae, personnifiant la pureté du sacramentel. Le bassin, au profil hémisphérique et lisse, représente un choix plus sobre par rapport au premier bénitier, en accord avec la phase mature d'Antonino Gagini qui privilégiait les surfaces lisses pour valoriser l'éclat du marbre blanc-ivoire. En levant à nouveau les yeux, la quatrième fresque de la voûte représente la rencontre du Christ avec la Samaritaine au puits. Jésus, assis sur le bord dans un manteau pourpre et une tunique ivoire, dialogue avec la femme qui, vêtue d'une robe bleue et d'un turban, tient une amphore en terre cuite prête à être remplie d'eau. L'arc de pierre et les branches fines en arrière-plan encadrent la scène, transformant le geste quotidien de puiser de l'eau en symbole de l'eau vive, annoncée par le Sauveur. Chers visiteurs, je vous invite maintenant à vous arrêter devant la chapelle de Saint-Guy, située dans la troisième travée de la nef latérale droite. L'agencement de cette chapelle présente une travée rectangulaire, habilement encastrée dans l'épaisseur du mur, qui s'élève légèrement par rapport au sol de la nef principale. Les murs sont scandés par de fines encadrements à la détrempe brun oxydé. Un jeu de lignes et de couleurs qui reprend l'élégant schéma géométrique de la contrefaçade. Dans les angles, des festons dorés en plâtre pressé descendent avec grâce. Ce motif récurrent qui, comme un fil d'or, traverse et unit l'ensemble du dôme. Au-dessus de l'autel, la toile de la Madone libératrice des malades, une œuvre du maître Filippo Tancredi. Cette huile sur toile est encadrée par un très riche cadre en bois ébénisé avec une simèse et des angles à volutes de feuilles d'acanthe dorées. Au centre, en haut, la Vierge assise sur un trône de nuages tend avec un geste de bénédiction l'enfant. Sous elle, un ange indique un jeune malade étendu sur un grabat, tandis que deux saints intercèdent, probablement saint Roch, reconnaissable à son manteau vert brun, et saint Sébastien, ou pèlerin Lazziosi. Des poutis ailés et des guirlandes de roses clôturent la scène, créant une atmosphère de grâce et d'espoir. Au centre de la chapelle est placée la statue en bois de Saint Guy Martyr, une œuvre de grande valeur, réalisée en bois de peuplier sculpté et polychromé, avec des dorures à la mission. Cette sculpture est un exemple éloquent de l'habileté des artisans du bois sicilien entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Le jeune saint est représenté en habit de la Renaissance, avec une lorica dorée et un manteau rouge. Il serre sur sa poitrine l'évangile et à ses pieds, deux petits chiens rappellent la légende qu'il a voulu sauver par des chiens pendant son martyre. La statue a été transférée dans cette chapelle depuis l'église voisine dédiée au saint patron de la ville, aujourd'hui siège du musée du Dôme. Maintenant, en regardant à nouveau vers la voûte de la nef, le cycle pictural se termine par Jésus qui apaise la tempête. Des bateaux ballottés, des rameurs luttant contre les flots créent une atmosphère de danger et de peur. Au centre, le Christ debout, le bras levé et le manteau rouge gonflé par le vent, tandis que la vague brise la proue au premier plan, démontre son autorité divine sur les éléments naturels. La dernière chapelle de la nef droite est celle dédiée à Sainte Lucie. L'architecture de cette chapelle suit le schéma des autres chapelles latérales, une niche rectangulaire encastrée entre des pilastres avec une voûte en berceau surbaissé et des lunettes latérales. Les murs blancs, scandés par des encadrements brun oxydé, créent un environnement recueilli qui favorise la prière personnelle et l'intimité avec les saints vénérés. Au centre de la chapelle se dresse la statue en bois de Sainte Lucie, la jeune martyre syracusaine vénérée comme protectrice de la vue. La sainte est représentée selon l'iconographie traditionnelle, jeune, vêtue avec élégance, tenant dans sa main le plat contenant ses yeux, symbole de son martyre et de son patronage. La robe de la sainte, finement décorée, rappelle son origine patricienne. À la base de l'autel, dans une position de vénération particulière, est conservée une urne reliquaire contenant les restes d'un martyr des catacombes romaines. Cette relique, arrivée à Carigny par les canaux de la dévotion ancienne, représente un lien direct avec l'Église des origines, avec ces chrétiens qui scellèrent leur foi en Christ par leur sang. Aux côtés de la statue sont placés les tableaux des ex-voto métalliques, yeux, mains, cœur, typiques de la religiosité populaire sicilienne. Chaque ex-voto raconte une histoire, un œil guéri, une main restaurée, un cœur consolé. Sur les murs latéraux de la chapelle, quelques toiles d'époques différentes complètent l'ameublement dévotionnel. À droite de l'autel se dresse un cippe en marbre néoclassique, le monument funéraire Carolo, datant d'environ 1850. Ce monument, dans son élégance sobre, porte une inscription en latin dédiée à De Salvatore Carolo, archiprêtre local, un hommage à sa vie et à son ministère. À gauche, la toile représentant la Madone du Rosaire. Chers visiteurs, je vous invite à présent à vous diriger vers le transept latéral droit où s'ouvre un espace d'une beauté et d'une profondeur théologique extraordinaire, la chapelle du Très-Saint-Sacrement. L'environnement se présente comme une seule et majestueuse travée, surmontée d'une voûte en berceau à lunettes qui s'élève avec grâce vers le haut. L'ensemble de l'espace est habilement encadré par un entablement néoclassique continu, une frise ininterrompue qui en marque la linéarité et l'élégance. L'entablement est rythmiquement interrompu par des pilastres cannelés, des colonnes plates adossées au mur, dont les surfaces sont finement gravées de cannelures verticales. Elles culminent en chapiteaux corinthiens dorés, un triomphe de feuilles d'acanthe et de volutes qui, embellies d'or, captent la lumière et ajoutent une touche de somptuosité à l'ensemble. Pour délimiter le presbytère, une haute et imposante balustrade en marbre polychrome s'élève. Au centre du presbytère, point focal de la dévotion, se dresse l'autel eucharistique. Sa table et son antependium sont un chef-d'œuvre d'incrustation en marbre mixte où différentes variétés de marbre se fondent dans une harmonie de couleurs et de veines. Au centre de l'antepentium, un médaillon central doré attire le regard et souligne la sacralité du lieu. Au-dessus de la table s'élève le tabernacle en forme de tempietto, datant du XIXe siècle. Réalisé en marbre gris veiné, avec ses stries naturelles qui lui confèrent un aspect dynamique, il est embelli de colonnes rouges qui en rehaussent la structure. L'ensemble est surmonté d'une petite coupole vert serpentin, une petite coupole à la tonalité intense qui ajoute du raffinement. En arrière-plan se déploie une grandiose auréole en bois doré, œuvre du milieu du XVIIIe siècle. De cette auréole, symbole de la lumière divine, émergent 8 poutis en stuc, figures angéliques qui, par leur forme douce et dynamique, convergent vers l'ostensoir central, aujourd'hui protégé par un voile pour en préserver l'intégrité. Le mur du fond est enrichi d'une décoration plastique de grande valeur. Dans un fronton brisé se détache une paire de poutis, figures angéliques qui, par leur grâce, animent l'espace. L'ensemble de l'œuvre, réalisé en stuc blanc et dorure, est le fruit de l'artisanat local de la fin du XVIIIe siècle, témoignage de l'habileté artisanale de l'époque et de la capacité à créer de la beauté au service de la foi. En levant les yeux vers la voûte, un ciel peint de profondes significations théologiques se révèle. Dans le médaillon ovale central, une figure féminine éthérée et gracieuse, enveloppée dans une robe aux délicates nuances bleu-rose, porte entre ses mains un calice et une hostie rayonnante. C'est l'allégorie de l'Eucharistie. Les lunettes sont décorées de scènes qui recèlent d'essais de profondes significations théologiques liées à l'Eucharistie. Dans la première, on observe des poutis vendangeant avec des grappes de raisin, image qui évoque le renvoi au sang du Christ, symbole de l'Eucharistie. Dans la seconde, des poutis avec des épis de blé font allusion au pain eucharistique, complétant ainsi le cycle iconographique de la célébration eucharistique. Les murs latéraux de la nef sont ornés de fresques murales qui racontent des épisodes bibliques liés au thème de l'Eucharistie. Sur le mur de gauche, vous pouvez admirer la fresque de « La multiplication des pains et des poissons », œuvre de Giuseppe Sant'Angelo, réalisée en 1930. La scène capture le moment où le Christ bénit la foule tandis qu'un jeune homme, avec un geste d'humilité et d'offrande, présente les pains et les poissons, préfiguration du don eucharistique. Sur le mur de droite se trouve la fresque de « Le prophète Élie réconforté par l'ange », épisode biblique du premier livre des rois. L'ange, messager divin, tend du pain et une cruche au prophète endormi, une typologie de l'Eucharistie qui souligne la nourriture spirituelle offerte par Dieu. Les deux peintures sont enfermées dans de larges arcs en plein cintre, enrichis de têtes de chérubins en stuc et de feuilles de laurier dorées. Chers visiteurs, nous concluons notre extraordinaire voyage à travers les merveilles de l'église mère de Carigny par la contemplation d'un espace d'une intensité dévotionnelle et artistique exceptionnelle, la chapelle du Très-Saint Crucifix. Cet environnement se révèle comme un véritable théâtre baroque de la Passion, habilement encastré dans la maçonnerie de la nef, où chaque détail contribue à créer une expérience visuelle et spirituelle d'une profonde résonance. Cette chapelle se présente comme un édicule d'une élégance extraordinaire, délimité par des pilastres cannelés qui s'élèvent avec grâce, culminant en chapiteaux dorés qui reflètent la lumière, ajoutant de la splendeur à l'ensemble. Au-dessus, un cartouche en stuc porte le monogramme IHS, un symbole christologique qui élève le regard vers le sacré. L'entrée de la chapelle est magnifiquement encadrée par un arc de triomphe embelli d'un motif de dorure continue qui souligne sa solennité. Au-dessus de cet arc, une très élégante coquille Saint-Jacques, aux formes sinueuses et délicates, est soutenue par des poutis qui semblent flotter dans l'air avec une grâce angélique. Cette composition culmine dans la devise joannique en stuc polychrome. Si quid petieritis patri, nomin meo dabit vobis. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Au centre de cet espace sacré, protégé par un cristal qui en préserve l'intégrité, se dresse avec une présence imposante le simulacre en bois du Christ crucifié, une œuvre datant de la fin du XVIe siècle. Le corps du Christ, sculpté avec une maîtrise qui en exalte la tension et la souffrance vibrante, est cloué à une croix de pierre d'agate mouchetée, un élément d'une unicité extraordinaire en Sicile. Cette croix sert également de reliquaire derrière elle, conservant en son sein de précieux souvenirs de la Passion. Sur les côtés du crucifix, sur d'élégants piédestaux, se dressent deux anges en stuc attribués à Procopio Serpota, créés vers 1720. Ces figures angéliques, animées par un vortex ascendant qui en exalte le mouvement et l'intensité dramatique, brandissent les lances de la Passion, instruments de martyrs qui prennent ici un sens de profonde dévotion. À droite de l'autel, à l'intérieur d'une niche protégée par du verre, est conservé un objet d'une valeur historique et spirituelle inestimable. Le magnifique trône processionnel en bronze doré, embelli de colonnes de lumacella, un marbre brocatel aux veines suggestives. Sous le petit édicule en forme de dôme de ce trône se trouve le reliquaire de l'épine, un fragment de la couronne du Christ, un don d'une importance extraordinaire reçu en 1525 de la baronne Eleonora Tocco Manriquez. Quatre chérubins soutiennent le reliquaire cylindrique qui renferme la relique, tandis qu'un nimbe, en argent ciselé, amplifie la préciosité de cet ex-voto. La chapelle est enrichie d'un cycle pictural d'une notable pertinence artistique et spirituelle. À gauche du crucifix, une ardoise de Zoppo di Ganji, datant du début du XVIIe siècle, présente une huile sur ardoise représentant le crucifix entre saint François et saint Onuphre. La pénombre caravagesque qui enveloppe la scène accentue l'intimité du dialogue mystique entre les figures. Sur les côtés de l'arc de triomphe, deux grandes toiles ovales de Vito Dana, réalisées entre 1729 et 1769. La première, la Dolorata, Notre-Dame des Douleurs, représente la Vierge dans un habit sombre et un manteau bleu cobalt tenant son cœur transpercé, symbole de son immense douleur. Les rouges profonds du drapé rappellent le sang rédempteur. La deuxième toile, la Véronique, montre la Sainte étendant le suaire avec l'Imago Christi, tandis que deux putti enroulent un cartouche avec l'inscription « Inri ». Au-dessus des portes latérales, deux ovales à fond doré et portent des inscriptions latines qui révèlent qu'à des aspects historiques et dévotionnels de la chapelle. Sur le côté gauche, le texte AMDG, Populis Accelum hoc noviter comptum in peculiarem monumentum pietatis dispositum fuit, se traduit par une dédicace Ad Maiorem Dei Gloriam, cette chapelle du peuple récemment embellie a été préparée comme un monument spécial de piété. Sur le côté droit, l'inscription Sub auspicis Vincenti Otroes, La Grua Talamanca, Rectoribus Don Petro Randazzo y Aloisio Sarmiento Anno 1700 Quadragintasex rappelle le 1746, patronage du prince Vincenzo IV, La Grua Talamanca et des recteurs en l'an 1746. Avec cette chapelle, votre extraordinaire voyage à travers l'église mère de Carini se termine. Vous avez contemplé des siècles d'art et de foi, vous avez rencontré des saints et des artistes, vous avez respiré la spiritualité d'une communauté qui a su transformer la pierre en prière. Chers visiteurs, nous vous remercions d'avoir visité ce lieu et vous invitons à poursuivre votre voyage à la découverte de l'histoire et de l'architecture de la ville de Carini.